Deuxième raison, parce que Jacques est un homme plein de sagesse, grâce à Dieu, qui ne se vante pas ou qui ne se place pas au-dessus des autres, en tout cas pas au-delà de la part que Dieu lui a donnée. Ça apparaît aussi dans sa lettre. Nous trébuchons tous de bien des manières, et Jacques se met dans le lot. N'est-ce pas réconfortant de savoir qu'il est solidaire aussi avec nous dans nos luttes? Et la troisième raison, parce que, et vous avez peut-être remarqué combien les proverbes, combien le sermon sur la montagne, combien tout ce que Jacques est en train de lire, de dire dans sa lettre est imprégné de toutes les écritures. Il y a beaucoup de sagesse. Et justement, on lit dans les proverbes qu'il vaut parfois mieux un reproche que des paroles hypocrites, n'est-ce pas? Par exemple, Proverbe 27,6, les blessures d'un ami sont dignes de confiance. Les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Mieux vaut un avertissement ouvert qu'un amour caché. Ici, Jacques nous avertit par amour. Proverbe 17,10, un reproche fait plus d'effet à l'homme intelligent que 100 coups à l'homme stupide. Et Jacques, c'est par amour qu'il écrit tout cela. Peut-être parmi nous, il y en a qui ne sont pas chrétiens ou pas encore trop sûrs où ils se situent et ils sont en train de se dire, ben je le savais bien, l'Église elle n'est pas meilleure, les chrétiens ne sont pas mieux que les autres. Il y a une part de vrai, oui, dans un sens oui, on est des pécheurs pardonnés par grâce, rappelons-nous ça ce matin. Si vous êtes chrétien, vous êtes pécheur, mais pécheur pardonné. Et ça change tout parce qu'alors on est en lutte. On n'est plus des pécheurs qui sommes contents avec le péché. On n'est plus des pécheurs qui se complaisent dans le péché. Et même si ça nous arrive de trébucher, nous voulons avoir l'humilité de demander pardon à Dieu, de revenir à lui et de demander pardon ainsi à ceux qu'on aurait blessés. Nous voulons être des pécheurs mais qui ne voulons plus vivre dans le péché. Pardonnez maintenant, nous voulons vivre pour la sainteté. Et la lutte va être énorme. C'est pas c'est quelque chose qu'il faut entendre en écho avec le passage qui nous a été lu ce matin dans l'Apocalypse. La lutte va être énorme, parce que le diable lui-même est impliqué. Et Jacques a déjà fait mention des démons qui sont là. Mais qu'il soit bien clair entre nous tous, et pour toute personne ou tout être qui entend ça en cet instant ici, dans ces locaux, qu'à Carayon, nous voulons lutter et enseigner la lutte contre le péché. Et nous comptons pas sur nos forces, mais nous comptons sur Dieu qui fait grâce, qui règne suprêmement comme roi et qui jugera. Je vous invite à lire le passage. Jacques, chapitre 3, verset 13. Qui est sage et intelligent parmi vous? Que celui-là montre ses œuvres par sa belle conduite, avec douceur et sagesse. Mais si vous avez au cœur une passion jalouse et amère ou une ambition personnelle, n'en soyez pas fiers et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là n'est pas celle qui descend d'en haut. Elle est terrestre, animale, démoniaque. En effet, là où il y a passion jalouse et ambition personnelle, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut, elle, est d'abord pure, ensuite pacifique, conciliante, raisonnable, pleine de compassion et de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Or, le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. D'où viennent les conflits, d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos plaisirs qui combattent dans votre corps tout entier? Vous désirez et vous ne possédez pas, rempli de passions jalouses. Vous assassinez et vous ne pouvez rien obtenir. Vous multipliez les querelles et les conflits. Mais vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de pouvoir dépenser pour vos plaisirs. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est l'hostilité à l'égard de Dieu? Celui qui est décidé à être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain lorsqu'elle dit « Il désire jusqu'à l'envie, l'esprit qu'il a fait habiter en nous » Mais la grâce qu'il accorde est supérieure, puisqu'elle dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu. Opposez-vous au diable, et il vous fuira. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez votre cœur, âme partagée. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ne vous accusez pas les uns les autres, mes frères. Celui qui accuse un frère ou qui juge son frère accuse la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas quelqu'un qui la met en pratique, mais un juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain ? En tant que prédicateur, ce n'est pas nécessairement les passages qu'on aime le mieux à prêcher, je vous le dis tout de suite. C'est difficile, franchement, juste de l'entendre, et après de se placer pour l'expliquer. Je vous invite à prier, alors avec moi, qu'on saisisse réellement ce que Dieu nous dit ce matin. Seigneur, très courtement, très simplement, viens à mon secours, viens à notre secours, que à cet instant même, nous ne soyons pas en train de nous boucher les oreilles pour refuser d'écouter ces paroles, mais plutôt que nous acceptions, que nous accueillions avec douceur, docilité, la parole que tu as plantée en nous, que tu nous rappelles par Jacques maintenant. Merci parce que il y a de la grâce aussi dans toutes ces paroles. Et aide-moi à faire ressortir cette grâce manifestée en Jésus qui est supérieure, Seigneur, supérieure, plus grande que tout. Merci pour cela. Amen. Il y a un problème. Il y a un problème dans les églises à qui Jacques écrit. Il y a des disputes. Il ne nous est pas précisé pourquoi. Justement, en général, les motifs de dispute sont si insignifiants, c'est pas toujours le cas, mais en général, quand même, ça part de rien. Et on n'a pas besoin de savoir en réalité le pourquoi de la dispute. Mais plutôt de nous préparer dans nos cœurs pour aller bien plus au fond des choses, en nous-mêmes, pour résoudre et prévenir les conflits, pour être engagés dans la lutte et ne pas nous laisser porter par le courant en disant « c'est pas grave, il y aura la grâce à bon marché de Dieu, il va faire quelque chose ». De même, vous avez remarqué, Jacques semble pas trop s'intéresser à qui a raison ou qui a tort. De nouveau, il s'adresse d'abord aux chrétiens qui lisent sa lettre, les premiers destinataires, mais aussi à nous, à notre être profond, notre cœur, pour mettre en lumière les motivations secrètes que nous entretenons encore en tant que chrétiens. Aussi pour nous parler de notre besoin de la grâce de Dieu et de la discipline du Saint-Esprit. Jacques nous parle d'humilité devant Dieu, de crainte filiale devant Dieu, un Dieu qui est saint. Et il met en avant trois dualités. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Il y a deux sagesses. C'est les versets 13 à 18. Il y a deux amitiés, chapitre 4, verset 1 jusqu'à 10, et deux jugements, les deux derniers versets, versets 11 et 12. Et je vous invite à regarder avec moi le début. Versets 13 à 18, il y a deux sagesses, n'est-ce pas ? Qui est sage et intelligent parmi vous ? Et Jacques montre une sagesse terrestre, animale, démoniaque, et il parle de la sagesse qui vient d'en haut. Il y a toujours des occasions de tension dans le monde. Et puisque nous sommes encore en zone de combat, en territoire de conflit, n'oublions pas ça, mes frères et sœurs, que la lutte n'est pas terminée parce que nous avons reçu le pardon de Jésus-Christ. Il y a encore des luttes. Et donc, on est dans un territoire de combat. Il faut qu'on soit équipé. Le casque, le gilet pare-balles, qu'on fasse attention à où on va, quel moment on part, etc., etc. On est dans une zone de combat, un temps de guerre, et ça affecte aussi l'Église. En réalité, l'histoire de l'Église de Cavaillon a déjà été marquée par de telles disputes et de telles tensions, n'est-ce pas ? Alors la grande question, c'est qui est sage ? C'est la première des quatre questions de Jacques dans ce passage. Qui est sage? Il y a une différence entre ceux qui aimeraient un statut, être considérés comme sages, et ceux qui aspirent honnêtement à être sages. Et dans ce cas-là, la question de Jacques, elle est pour les premiers un défi, une mise en lumière qui ne laisse plus place aux apparences. Et pour les seconds qui aspirent honnêtement à la sagesse, c'est une invitation. Recevons-la comme telle alors. N'est-ce pas que nous voulons la sagesse? Jacques va nous enseigner ce qu'est la vraie sagesse et nous sommes prêts à l'écouter, même si cela remettait fortement ou totalement même notre propre définition de la sagesse en question. Il y a deux sagesses, de deux natures différentes. Deux sagesses, une en phase avec la vie de la personne, une qui cherche à satisfaire une ambition personnelle, vous avez vu ça? Et une autre qui est caractérisée par l'humilité, par la paix. Une qui est caractérisée par l'orgueil et le désordre. Une qui est l'œuvre de Dieu en nous, un don qui vient d'en haut. Une qui est terrestre, animale et démoniaque. Et une autre, et donc qui est en fait la nature de l'homme pécheur, de la femme pécheresse livrée à lui-même ou à elle-même. Ou alors une autre qui produit la paix, qui est semée dans la paix, qui produit la justice. Eh bien, Jacques nous dit, si quelqu'un se considère sage, qu'il le montre par sa conduite humble. On n'est plus trop étonné maintenant. Il nous dit, ok, soyez cohérents les amis. La sagesse dont parle Jacques n'est pas l'utilisation d'un savoir, d'une connaissance pour un savoir-faire. Je vais essayer de m'expliquer. Par exemple, on dit un sage architecte. Quelqu'un qui connaît son métier, qui fait bien son travail. Un sage enseignant, c'est quelqu'un qui a la bonne pédagogie, qui sait comment s'y prendre avec les enfants pour leur enseigner des choses, par exemple. On pourrait dire peut-être un sage musicien, quelqu'un qui a une technique et qui sait bien lire les notes et qui fait pas des fausses notes, etc. Ou un sage administrateur, c'est quelqu'un qui il sait qu'est-ce que c'est le boulot à faire, il sait comment gérer les finances, les sous, il connaît les lois et il fait tout correctement. Mais la sagesse dont parle Jacques, c'est plus qu'un savoir-faire, c'est une attitude intérieure. C'est d'abord une conduite, une bonne conduite pour sa vie personnelle, en cherchant la douceur, la pureté du cœur, la pureté de motivation, en cherchant la paix. Et le problème alors, auquel Jacques nous confronte, c'est le problème du cœur jaloux, centré sur soi, en train de jouer perso au lieu de chercher l'intérêt collectif. Si nous sommes sages, refusons ça. Montrons que nous sommes sages par une belle conduite. La sagesse, c'est une sagesse pratique, visible dans nos actions, nos choix. Il y a une sorte de savoir-faire, mais qui découle de l'intérieur de notre cœur. C'est pas suffisant de clamer partout qu'on est sage, ou d'avoir une apparence de sagesse, même une apparence de sagesse biblique avec une explication ou un vocabulaire ou un discours qui semble teinté de la parole de Dieu. Nos actions réelles, les buts qu'on poursuit dans nos actions, dans nos choix, vont authentifier une forme de sagesse ou une autre. Et s'il y a deux types de sagesse, laquelle est-ce que vous êtes en train de poursuivre ? Le grand problème, c'est qu'on peut facilement, au moins pour un temps, cacher notre manque de sagesse sous un saupoudrage évangélique, spirituel. Il suffit d'avoir les bons codes, le bon vocabulaire. Et on peut faire ça tout en continuant de poursuivre des passions mauvaises, de chercher son plaisir. Le bien, selon ce que moi je ressens, selon ce que moi je perçois, selon le plaisir que ça me donne. Mais la vraie sagesse se caractérise par l'humilité. L'humilité ou la douceur. Jésus lui-même, n'est-ce pas, était doux et humble de cœur. C'est un fruit de l'esprit qui va nous aider à ressembler de plus en plus à Christ. Cette vertu chrétienne, Christ l'a manifestée dans son ministère en venant servir son peuple, en donnant sa vie, en se mettant totalement à la disposition de Dieu, le Père, de son Père céleste, dans une confiance parfaite et une obéissance parfaite. C'est l'humilité, comme Jacques nous a déjà dit, de rester enseignable, d'accueillir la parole de Dieu, non pas pour l'oublier, mais pour la mettre en pratique. L'humilité se poursuit en se soumettant humblement pour faire ce que cette parole dit. Et regardez, quel encouragement, n'est-ce pas ? Ça va produire la paix. Ça va conduire à la réconciliation. C'est faire la même œuvre que Christ, qui est en train de rassembler sous sa autorité bienveillante les gens de toutes les nations pour réconcilier ceux qui étaient séparés de Dieu le Père, pour réconcilier des gens qui ne pouvaient pas s'entendre. Humainement parlant, c'est un miracle qu'on soit ensemble ce matin. Parce que nos intérêts, nos arrière-plans, nos cultures sont tellement différentes que, à part Christ, qu'est-ce qui nous tient ensemble ? Et donc c'est faire le même travail que Christ, c'est œuvrer dans le même sens que Christ, de travailler pour la paix, pour la réconciliation avec Dieu et les uns avec les autres. C'est plus que chercher un terrain neutre moralement, où tout le monde a sa petite part du gâteau et se sent suffisamment bien parce que ses plaisirs à lui sont satisfaits. La sagesse raisonnable, vous avez ça au verset 17, peut-être c'est conciliante dans votre version. Sagesse raisonnable, il faut comprendre ça, c'est pas juste que c'est cérébral, c'est une sagesse qui obéit facilement. Comme lorsqu'on dit à un enfant, sois raisonnable, maintenant c'est le moment de faire tes devoirs. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous n'êtes pas en train d'essayer d'argumenter qu'il y a 10 bonnes raisons pour dire que c'est le moment de faire les devoirs. Vous êtes en train de faire appel à son désir d'obéir. Sois raisonnable. Et le contraire de l'humilité, c'est un refus d'apprendre. C'est un refus de se soumettre. C'est l'ambition jalouse de soi-même, une ambition personnelle. Et le résultat, c'est des désordres. Des désordres dans notre vie personnelle, des désordres dans l'église, des désordres dans la famille, des désordres dans la société. On peut se déchirer pour la couleur de la moquette, c'est déjà arrivé dans beaucoup d'églises, ou s'il faudrait une seule coupe ou des gobelets, par exemple, au moment de la Sainte Cène, sur le matériel qu'on devrait utiliser dans le ministère pour les enfants. Il y a plein de raisons. Est-ce que le ménage est bien fait, pas bien fait ? Est-ce que le pasteur, il est trop long ou pas assez long ? Il y a plein de raisons, de tensions, de disputes possibles. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Le bon projet de Dieu, c'est la paix. Et tout découle de la douceur et de l'humilité. De nouveau, le contraire de l'humilité, c'est l'arrogance. Et la sagesse, alors, est un don qui vient d'en haut. On a vu déjà ça en 1.17, c'est un cadeau de Dieu, un don parfait. Elle reflète donc la personne de Dieu, et la foi, l'union à Dieu, la relation filiale avec Dieu. Alors cherchons ce qui honore Dieu, ce qui est vrai, juste et bon. Il y a deux sagesses, laquelle est-ce que nous poursuivons ? Et il y a deux amitiés. Jacques, il continue, il y a des querelles dans l'église, ou les églises auxquelles il est en train d'écrire. Et il y a beaucoup d'occasions pour cela, on vient de le dire, parce que nous avons des mauvais désirs, parce que notre amitié est mal dirigée. La parole de Dieu ne laisse pas de place à l'auto-justification. C'est pas ça que Jacques est en train de dire, de donner des arguments pour se dégager. Elle nous amène à l'auto-examination. Regardons-nous nous-mêmes ce matin. C'est un remède violent, mais nécessaire contre notre égocentrisme et notre égoïsme. En réalité, Jacques nous dit, et on le constate bien nous-mêmes, nos combats se situent au niveau de nos désirs tout personnels. Dans chapitre 1, verset 14, « Chacun est tenté par ses propres désirs mauvais. Nous nous battons pour satisfaire nos désirs et avoir du plaisir en cela. » Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué qu'on met en place des systèmes où on peut être récompensé. Donc on a un désir, il y a quelque chose en nous qui commence à crier, et on veut satisfaire ce désir-là, coûte que coûte, pour avoir l'apaisement, pour avoir le plaisir d'être satisfait. Et le grand problème, c'est que nos désirs ont été complètement désorientés, mal orientés maintenant, depuis à notre ancêtre Adam. On met en place des systèmes de récompense, on met en place des stratégies pour satisfaire nos désirs. Alors, on va manipuler les uns les autres, en paroles, en posant des actes, en se faisant voir sous tel ou tel jour. La grande question que Jacques nous pose, je crois, ce matin, c'est quel plaisir, quel désir personnel est-ce que j'essaye de nourrir ou de protéger ? Le statut, l'admiration des autres ? Et quelle manœuvre on met en place pour ça ? Et la parole de Dieu est très claire dans ce passage. Il n'y a pas 36 choix possibles, même pas 3. Même pas 3, il y en a seulement 2. Il y a 2 amours, 2 amitiés possibles, ni plus ni moins. Le problème, c'est notre cœur qui est partagé. C'est le problème des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. C'est pas, Jacques, il n'est pas en train de dire qu'il y a des luttes entre nos bons désirs et nos mauvais désirs. Il est en train de dire qu'il y a en nous des désirs qui font la guerre à notre âme. Et la question alors, c'est est-ce qu'on va lutter contre ces désirs mauvais, personnels, de passions jalouses, de querelles, de conflits, ou est-ce qu'on va aller dans le flot ? Dans quel sens est-ce que nous luttons ce matin ? Avec tes désirs mauvais, contre ton âme, ou cherchant ce qui plaît à Dieu pour le bien de ton âme et pour la paix autour de toi ? On désire posséder, on désire avoir de l'influence, on désire avoir du pouvoir, on désire dominer, on désire obtenir l'affection de tous, on désire contrôler les autres. C'est des désirs puissants qui sont là en nous. Il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Mais on n'est pas sans secours. Et Jacques nous dit, il y a une arme pour lutter, la prière. La prière bien orientée, pas la prière qui demande pour satisfaire ces désirs-là. Il y a une autre voie possible que de céder à nos ambitions personnelles. Il s'agit de prier. Rappelez-vous, chapitre 1, verset 5, « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Régulièrement, dans l'épître de Jacques, il met en lumière les mauvaises attitudes et mauvaises motivations de notre cœur, mais aussi sans cesse, par amour justement, il nous fait regarder à Christ. Christ humble et doux. Regardez à lui, cherchez à lui ressembler. Christ qui intercède pour nous, prions-le. Rappelez-vous Éphésiens 3, d'elle qui nous a prêché sur Éphésiens 3 la semaine dernière, qui nous a parlé de Dieu qui donne généreusement, selon sa richesse, selon l'abondance de sa richesse. Et regardez, nous n'avons pas, parce que nous ne demandons pas. Dans un sens, avoir l'affection, c'est légitime, on est construit pour être en relation, on est construit pour comme être émotionnel, on doit vivre avec de l'affection. Et des fois, on ne demande pas à la bonne personne, on cherche ailleurs qu'en Dieu. Nous ne cherchons pas à dépendre de Dieu, c'est là le problème. C'est là notre manque d'humilité. Nous n'avons pas parce que nous demandons mal. Dieu ne répond pas aux prières dont les motivations sont mauvaises, qui sont contraires à sa volonté. De nouveau, ça nous parle alors d'un problème relationnel avec Dieu. C'est là la source de notre mal-être. C'est là qu'il faut revenir. Et il faut se poser la question, mais qu'est-ce qu'il est bon alors de demander à Dieu ? Peut-être certains ont lu l'article envoyé dans l'email de nouvelles lundi dernier, sinon je vous invite à le faire. Peut-être vous connaissez ce livre, La prière renouvelée de Don Carson, qui nous aide à voir pourquoi l'apôtre Paul priait. Une bonne idée d'aller puiser dans ce genre de ressources-là des rappels. Qu'est-ce qu'il est bon de demander à Dieu ? Et je pense que, juste dans notre passage, Jacques nous invite à demander l'amour pour Dieu sans partage. L'allégeance à Dieu sans compromis. Dieu souhaite que nous ne soyons pas adultères, que nous l'aimions, que nous aimions pas un autre que lui, ou plusieurs autres que lui. Et si vous lisez la Bible régulièrement, vous savez qu'il y a ici une forte référence au langage de l'Ancien Testament en ce qui concerne la relation du peuple d'Israël avec Dieu. Et l'idolâtrie, le fait d'aimer autre chose que Dieu, comme un adultère spirituel, comparé à un adultère. Une femme qui va avec un autre homme que son mari, un homme qui va avec une autre femme que son épouse. un problème d'adultère spirituel alors. On ne peut pas aimer Dieu et aimer le monde. Ce n'est pas possible, nous dit Jésus, de servir deux maîtres, où l'on aime l'un et pas l'autre, où on aime l'autre et pas le premier. Et dans un tel cas, il y a des conflits de loyauté. Et dans ces conflits de loyauté, ce qui va ressortir dans nos choix va révéler ce qu'on aime le plus. Est-ce que c'est mon confort? Est-ce que c'est ma tranquillité? Est-ce que c'est de l'attention? Est-ce que c'est une place? Nos passions révèlent les idoles cachées de notre cœur. Une idole, c'est une chose créée qu'on aime plus que Dieu. C'est une chose qu'on aime sans Dieu, en déconnectant cette chose du but de sa création. Et vous savez que toutes choses ont été créées pour rendre gloire à Dieu, nous y compris. Tout est de lui, par lui et pour lui. Et quand on essaie de détourner ça pour nous servir nous, quand c'est tourné vers nous, ça devient une idole. Quand tout, on essaie de changer ça en faisant que tout est pour nous, alors ça révèle un cœur qui a des passions mauvaises, inassouvies. Aimer une petite amie plus que Dieu. Aimer des bonnes notes à l'école ou au travail, l'approbation de ses chefs plus que Dieu. Avoir une belle maison, être plus préoccupé par ça plutôt que s'occuper de notre vie qui est le temple du Saint-Esprit. Par exemple, voilà le genre de choses que Jacques est en train de mettre en avant. Et il nous dit qu'il y a une connexion directe entre cet adultère spirituel, cette idolâtrie, et du mal pour les autres. Ça va créer non seulement du désordre, et ça va même jusqu'à faire vraiment du mal. Il utilise des mots forts, Jacques. Vous assassinez. Vous multipliez les querelles et les conflits. C'était la même chose, d'ailleurs, dans l'Ancien Testament. L'idolâtrie au plus haut degré des nations environnant Israël et auxquelles même Israël a cédé, a résulté dans le sacrifice, par exemple, d'enfants au dieu Moloch. On est prêt à donner les autres en sacrifice à nos idoles, alors qu'on devrait se donner soi-même en sacrifice vivant à Dieu, dans le service pour Dieu et pour les autres. Les mauvais désirs, eux, conduisent au meurtre, à la frustration, à la dépression. Alors, il y a deux points de vue. L'homme pécheur qui désire et Dieu qui désire. Vous avez vu ça? Au verset 5 et 6, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain lorsqu'elle dit « Dieu désire jusqu'à l'envie l'Esprit qu'il a fait habiter en nous ?» Dieu désire l'Esprit qu'il a mis en nous. Dieu est jaloux de l'Esprit Saint qu'il a placé en nous. Dieu est jaloux du travail qu'il a commencé à faire pour nous faire naître de nouveau, pour nous changer. Pour changer notre cœur, le cœur nouveau qu'il a mis en nous, Dieu désire ce cœur-là. Dieu reste un Dieu exigeant, un Dieu exigeant par amour. Imaginez un époux qui verrait sa femme partir pour un autre et qui resterait les bras croisés en disant « c'est pas grave, peu importe ». Il ne peut pas aimer son épouse s'il fait ça. Au contraire, un mari va protéger sa femme. Une femme, elle va désirer jalousement garder son mari. Par amour. Parce que c'est juste. Dieu désire avec jalousie, ce sort de jalousie, l'Esprit Saint qu'il a placé en nous. Alors ça nous fait trembler, on voit l'exigence de Dieu. Et regardez comme le verset 6 est d'un réconfort incroyable. Mais la grâce qu'il accorde est supérieure. Et là, il ne faut pas qu'on s'arrête ici en disant « Ah ben voilà, donc la grâce, ça résout tout. » Il suffit juste d'avoir le mot « grâce, grâce, grâce » toujours à la bouche pour que tout soit bon. Mais la grâce, elle est donnée à ceux qui sont humbles. La grâce que Dieu accorde est plus grande. Donc vivre une vie de sainteté, ce n'est pas une option. Parce que Dieu est jaloux, et c'est possible, parce que Dieu est plein de grâce. C'est pas quelque chose que nous, on va produire nous-mêmes, mais c'est quelque chose qu'on peut quand même poursuivre par l'humilité. Comment faire? Ben Jacques nous répond, il faut s'humilier. Il cite le Proverbe 3, verset 34, qui est repris donc au verset 6, qui souligne le verset 7 et le verset 10 aussi. Et il y a toute une série d'impératifs ici, une dizaine. Le premier, c'est « Soumettez-vous donc à Dieu ». Ok, si on a compris ça, « Soumettez-vous donc à Dieu ». Et puis après, il y a trois paires d'impératifs. « Opposez-vous au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Vous voyez, il y a un seul choix qui est juste et bon à faire. Fuir loin du diable et courir vers Dieu. Il y a un seul choix et deux promesses. Opposez-vous au diable et il fuira loin de vous. C'est pas nous qui allons faire ça, c'est Dieu qui va faire ça avec et pour nous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. N'est-ce pas extraordinaire de réaliser que Dieu veut et prêt à s'approcher de nous? Deuxième paire d'impératifs, purifiez vos mains pécheurs. Nettoyez votre cœur, âme partagée. Nos actes extérieurs, comme notre être intérieur. Nos mains, nos actes, les choses qu'on fait, tout autant que notre cœur, ont besoin d'être nettoyés et purifiés. Venons à Dieu pour chercher ça. Et regardons alors à Christ, celui qui peut nous purifier par son sang de tout péché. Et puis le troisième, Paul, reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Ça fait écho, n'est-ce pas, au sermon sur la montagne, pour ceux qui étaient là dans les groupes de partage, pleurez sur ce qu'on a perdu dans notre relation avec Dieu. Reconnaître son besoin spirituel. Revenir à Dieu, avoir faim et soif de la justice. Est-ce que c'est notre cas? Et de nouveau, en résumé, il s'agit de s'abaisser devant Dieu, d'arrêter d'essayer d'utiliser Dieu pour nos intérêts, mais plutôt nous soumettre nos intérêts à Dieu. Il y a cette série d'impératifs, mais la même idée de la repentance devant Dieu. Et je voudrais vous encourager, je voudrais dire ça, n'est-ce pas, pour être réaliste. Il ne s'agit pas d'une récompense instantanée, ok? Ah, cet après-midi, je fais ça. Et après, c'est bon, je suis tranquille. Il ne s'agit pas d'une récompense instantanée, malheureusement. Avec vous, je suis en train de dire malheureusement aussi. Ni définitive, tant que Christ n'est pas revenu. Il va y avoir régulièrement des luttes qui vont revenir sur le devant de la scène dans notre vie. Régulièrement, il nous faudra revenir à la repentance. C'est-à-dire tous les jours, s'il le faut. Régulièrement, nous devons conduire notre cœur à Dieu, redire à notre âme de s'humilier, de s'abaisser devant Dieu. Et ça va être pénible parfois. Mais la grâce que Dieu accorde est supérieure. Mais la grâce que Dieu accorde est supérieure. Je termine avec les deux derniers versets. Rappelons-nous aussi qu'il y a deux jugements. Celui des hommes et celui de Dieu. En fait, le seul qui est juste, le seul qui est le vrai juge. L'orgueil est un grand danger qui nous prive de la grâce de Dieu. On vient de le voir. Sans humilité, il n'y a pas de grâce. L'humilité, c'est trouver sa fierté non en nous, mais en ce que Jésus a fait. Et rester à notre place de pécheur pardonné par pure grâce. Sans que nous ayons pu, nous sauver nous-mêmes. Excuse-moi, Jacques, j'aurais envie de dire. N'est-ce pas ce que tu viens de faire? Tu nous traites d'adultère. T'es pas allé de main morte, quand même. Apprenons de Jacques et cherchons comme lui à avoir un sens aiguisé de ce qui est bien et de ce qui est mauvais. Juger, ne pas juger, franchement, ce sont des passages difficiles dans un sens à comprendre. Mais une chose est sûre ici, en tout cas, Jacques ne nous dit pas que nous devons mettre de côté notre sens moral. Comme si on devait laisser tout faire sans se prononcer. ne devons pas laisser de côté notre sens moral, surtout pas nourrir, surtout pas arrêter de nourrir notre sens moral de la parole de Dieu. Donc oui, quand même, on est appelé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Mais ce que Jacques il nous dit, c'est que ça commence d'abord par nous-mêmes, par notre propre vie. Je relis avec vous le verset 11. « Ne vous accusez pas les uns les autres, mes frères. Celui qui accuse un frère ou qui juge son frère accuse la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas quelqu'un qui la met en pratique, mais un juge. La première chose à faire, c'est surtout d'exercer notre sens moral pour mettre la loi de Dieu en pratique dans notre propre vie, pour nous juger nous-mêmes, si vous voulez, pour nous examiner nous-mêmes. » Ici, Jacques semble parler d'accusations dans lesquelles on se place au-dessus de ce que Dieu demande, au-dessus de la parole de Dieu, en ajoutant à ce qu'elle dit, en voulant ajouter des préceptes ou des exigences qui ne sont pas dans la parole de Dieu, pour faire en sorte que les gens nous suivent, nous, dans ces ajouts. Ça, ce n'est pas une bonne chose à faire. Ce n'est pas bien de faire ça. Ce n'est pas normal de faire ça. Ça, c'est se placer en juge de la loi. C'est se mettre au-dessus de la parole de Dieu. On ne peut pas faire ça parce que verset 12, « Un seul est législateur et juge. » Je pense que la deuxième recommandation de Jacques, c'est aussi de juger, mais sans aller au point de condamner définitivement. Parce que ce n'est pas en notre pouvoir de sauver ou de perdre quelqu'un. Mais ça, c'est réservé à Dieu seul. Donc oui, avertissons-nous les uns les autres, avec douceur, avec humilité, faites-le pour moi. Venez me voir, s'il vous plaît, avec douceur. Marc-Étienne, je me pose des questions. Dans ta vie, j'ai remarqué ceci. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles je peux t'encourager? Faites-le. Et faisons-le les uns envers les autres, avec douceur, avec humilité, en travaillant pour la paix, non pas pour notre ambition personnelle, mais pour le bien de l'autre. Et comptons sur Dieu. C'est lui qui peut sauver. C'est lui aussi qui a pouvoir ou décision de perdre quelqu'un. Travaillons pour aller vers la réconciliation. En effet, les machinations, les magouilles constituent l'une des causes les plus fréquentes de conflits, alors que la sincérité est indispensable à toute vraie réconciliation, à tout vrai dialogue, échange entre nous dans l'Église. Alors, on lit cela, et de nouveau, on regarde à Christ. Christ est celui qui est venu pour sauver avant de juger. Il revient. Il y a un jour du jugement qui est fixé. Jésus revient avec le pouvoir de juger. Mais pour le moment, c'est un temps de patience encore où il offre le salut. Inspirons-nous de lui. Inspirons-nous de son humilité à lui. Il ne s'est pas élevé devant Dieu, au contraire, il s'est humilié devant Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Suivons-le dans ses traces. Suivons Christ qui a travaillé pour la paix avec la sagesse qui est venue d'en haut, pure, pacifique, conciliante, raisonnable, pleine de compassion et de bons fruits. Il est impossible de vivre la vie chrétienne avec nos propres ressources. Nous avons besoin de la foi qui vient de Dieu, qui est un don de Dieu. Cette foi va se voir lorsque nous demandons à Dieu et que nous acquérons la sagesse de Dieu. Lorsque nous demandons à Dieu les choses qui sont bonnes pour faire sa volonté et non pour satisfaire nos propres désirs. Nous allons voir cette foi lorsque nous vivrons comme des amis de Dieu et non pas comme des amis du monde. Nous verrons cette foi en nous approchant humblement de Dieu. Que le Seigneur accomplisse cela dans notre vie, qu'il réalise cette parole dans l'église de Carillon. Amen.